avec Jérémy Filosa. Jérémy, François Gagnon choisit les Browns. Il a dit peut-être en cinq matchs. C'est, bon, je pense que ça va aller plus loin que ça, mais il dit, en tout cas, des matchs très serrés qui souvent risquent d'aller en prolongation. Toi, qui vois-tu comme gagnant de la Coupe?
Écoute, ma tête avec les Browns, mon cœur avec les Blues. Puis normalement, c'est plus souvent ma tête que d'autres choses, ouais. Qui a raison, sauf que depuis le début des séries, je me suis trompé souvent. Je pense que le premier tour, j'avais un bon choix sur 8 séries. Donc, écoute, c'est pas impossible que les Blues renversent la vapeur. Les Browns ont l'avantage au niveau de l'expérience, ont l'avantage au niveau de, justement, les connaissances de c'est quoi être en séries éliminatoires en finale de la Coupe Stanley. La majorité du groupe qui est là a gagné la Coupe Stanley dans le passé, ensemble. Du côté des Blues, c'est un groupe surprise qui n'ont plus rien à perdre et qui jusqu'à maintenant font flèche de tout bois. J'ai fait des vérifications. Il y a la dernière fois qu'une équipe de dernière place à la mi-saison s'est retrouvée en finale de la Coupe Stanley, c'est les Blues, 1968, ouais. Imagine. Ouais. Donc, c'est la même équipe, sauf qu'il n'y a aucune équipe qui a remonté le classement comme cela pour finalement gagner la Coupe. Il n'y a aucune équipe qui l'a fait, donc les Blues seraient la première. Là, les Browns viennent de gagner 7 matchs consécutivement. Ils ont le vent dans les voiles. Je vais prendre les Browns avec la tête, malheureusement.
Est-ce que tu as succombé à la folie des Raptors?
Absolument.
Moi, écoute, samedi soir, là, il y avait mon fils qui était là. D'abord, premièrement, le basketball, c'est un sport qui plaît à une jeune clientèle.
Absolument.
Les jeunes jouent beaucoup sur le jeu vidéo de la NBA et ils connaissent les joueurs et tout ça. Mais samedi soir, c'était captivant. Captivant. Écoute, il remonte 15 points.
Oui.
Remonte 15 points. Quand c'était au quatrième quart, 78-78, là, j'ai commencé à y croire. J'ai dit, cette équipe-là a quelque chose cette année qui va l'amener peut-être très loin. Bien là, ils sont en finale contre, ça sera pas facile, les Warriors de Golden State.
Écoute, tu dis, c'est un sport qui plaît aux jeunes. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas de temps à niaiser, comme on dit. Ils n'ont pas de temps à perdre. Il faut qu'ils reçoivent cette information-là le plus rapidement possible avec tous les écrans devant nous. Le basketball, Paul, c'est pas compliqué. Je marque, tu marques. Je marque, tu marques. Je marque, tu marques. Qui va marquer le dernier? Donc, comparativement à d'autres sports nord-américains où c'est beaucoup plus défensif, puis est-ce que quelqu'un va trouver le moyen d'enfiler l'aiguille? C'est
un qui
beaucoup
doit
plus passif.
Un qui doit être content de ce phénomène-là, c'est Michael Fortier, l'ex-politicien, qui tente d'amener, possiblement, ça peut prendre du temps, une franchise de la NBA à Montréal.
Attention, les Raptors ont aussi connu plusieurs années de vache maigre au début. Là, ça a été très difficile, ça a été très long avant que l'équipe vraiment commence à décoller.
Ça fait 25 ans. Exact. L'autre soir, ils ont célébré leur 25e anniversaire, 24 saisons, mais 25 ans de naissance.
Et une première présence en finale.
Bon, là où c'est le bordel,
oui.
On peut le dire ainsi. Puis je sais que tu peux dire des choses, puis il y a d'autres choses que tu peux pas dire.
Ouais.
Non, mais je le sais. Ouais. Je le sais parce que tu suis le dossier d'extrêmement près. Le dossier de vente des Alouettes est tombé dans une sorte de chaos en ce moment. Et il ne semble pas que ce soit l'homme d'affaires, Vincent Guzzo, qui va acheter les Alouettes.
Au moment où on se parle, il s'est temporairement retiré du dossier. Ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas dans le portrait. Mais il y avait une condition sine qua non. On va l'appeler comme ça. C'est peut-être pas une condition, mais une préférence de la Ligue canadienne de football que, après réflexion, M. Guzzo n'était plus capable de livrer. Je vous ai dit la semaine dernière que c'était suffisamment important pour que ça fasse dérailler l'offre de Vincent Guzzo avec la Ligue canadienne de football. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec ce scénario. Il y a toujours trois autres groupes qui sont actifs et qui veulent acheter les Alouettes de Montréal, sauf qu'on s'entend, Guzzo est l'homme d'affaires qui a le plus d'argent, qui, on le sait, c'est une tête de marketing absolument incroyable que la Ligue voulait avoir, mais au moment où on se parle, on est obligé de considérer d'autres options parce que malheureusement, cet ajout qu'on avait dans la clause, cette condition, on n'est tout simplement plus en mesure de la livrer du côté de M. Guzzo.
Cette hésitation montre que le dossier est très délicat. Il y a des choses que tu sais que tu ne peux pas dire.
Ah, bon, malheureusement.
Et là, la saison débute à Edmonton le 16 juin.
Oui.
Regarde la date, on est le 27 mai.
Oui.
Là, l'équipe de coach menée par Mike Sherman doit bâtir une équipe avec toutes ces histoires qui n'aboutissent pas
écoute,
de vente.
M. Guzzo devait donner une réponse d'ici le 1er juin. Mais là, ça s'en vient le 1er juin. Donc là, on recommence le processus. Et si jamais on se retrouve au 1er juillet et qu'on n'a pas d'acheteur potentiel, Paul, il va falloir que la Ligue absorbe tous les frais. Et croyez-moi, là, le montant qu'on est prêt à offrir à celui qui va se porter acquéreur des Alouettes, c'est un gros magot, là. Et c'est pas de l'argent qui partirait des poches des propriétaires pour aller vers les Alouettes. C'est l'inverse. La Ligue canadienne va payer le nouveau propriétaire pour qu'il prenne en charge cette organisation-là, autant les déficits sont élevés.
Alors, la presse rapportait en fin de semaine que M. Bronfman favoriserait un stade sans toit si les Expos, ou enfin l'équipe de baseball professionnel, revenait à Montréal. Ce qui semble être une absurdité quand on regarde les températures incertaines jusqu'à la fin du mois de mai, comme c'est le cas présentement.
Je vais être prêt à te dire, là, j'aime le baseball, j'adore, je rêve du retour des Expos, mais si tu vas bâtir un stade pas de toit, là, honnêtement, là, laisse donc faire. Et ça n'a aucun bon sens. J'ai pas été capable de me faire confirmer ou nier cette information-là de la presse par les membres à l'intérieur du groupe qui veulent ramener les Expos de Montréal. Mais Paul, quand j'entends le président des Brewers de Milwaukee dire, il n'y a pas plus tard qu'un an, la meilleure décision prise dans l'histoire de notre franchise, ça a été de mettre un toit rétractable sur notre stade. On attire en moyenne, dans les 20 dernières années, 1 million de partisans de plus par année. Mais en moyenne, un billet à 50$, parce que tu en as à 20 et tu en as à 100, là, ça fait 50 millions de dollars par année que tu génères. Donc, même si ton toit te coûte 250 millions, juste en billets, tu vas être capable de payer ton toit en 5 ans. Puis là, je parle pas des chips, de popcorn, puis des casquettes, puis du stationnement. Puis je te parle pas non plus de tous les autres événements que tu peux faire dans l'année, même l'hiver, parce que tu peux fermer ton toit.
T'as raison.
Donc, écoutez, je sais même pas pourquoi on pense à ça.
Ils veulent utiliser le futur stade également pendant la saison hivernale.
Exactement.
Bon, ça a été le désastre pour l'Impact.
Fallait s'y attendre.
Contre Los Angeles, mais surtout le cadeau de Evan Bush à 7 minutes. Là, c'est une mauvaise tendance que l'Impact a de donner un premier but stupide en début de match.
Oui.
Ça leur coupe les jambes et puis malheureusement, Nacho Piatti a encore mal au genou.
Ben écoute, oui, il a mal au genou. Il ne s'est pas entraîné ce matin. On ne sait pas s'il va jouer mercredi, malheureusement. Cette passe-là, Saphir Tader n'aurait jamais dû la faire et Evan Bush aurait dû se débarrasser du ballon plus rapidement. Mais moi, il y a une chose qui m'agace depuis quelques semaines, Paul. Je ne vois pas la hargne. Sur les ballons aériens, je ne vois pas les joueurs de l'Impact sauter pour essayer de gagner des duels. Et j'ai posé la question à Rémi Garde ce matin. Sais-tu moi ou qu'est-ce qui se passe sur les ballons aériens? Tes gars ne se battent pas du tout. Voici sa réponse.
Vous voyez très bien. Et ce sont des situations qui m'agacent au plus haut point. Le jeu aérien dans le soccer, pour moi, c'est un baromètre de l'envie d'une équipe de vouloir gagner un match. Effectivement, j'ai bien noté ces situations-là dans le match. Pas la première fois, j'ai montré ça aux joueurs plusieurs fois par le passé. Enfin, c'est inacceptable. Je ne peux pas concevoir qu'on n'ait pas envie de se battre pour un ballon au sol ou un ballon aérien. Voilà, bon, vous avez bien noté.
Ouais. Vous avez bien noté.
Mais cette mauvaise tendance à donner le premier but tôt dans le match leur coupe les jambes. Je te dis, regarde, vendredi soir, là, c'était comme s'ils étaient battus d'avance.
Mais ils ne sont pas capables de jouer du soccer de rattrapage.
Non,
Oublions ça.
Surtout pas après le premier but à 7 minutes quand c'est un cadeau. Voilà. Et je ne blâme pas le gardien parce qu'Evan Bush a fait des arrêts
Il a fait de très bons arrêts, mais celle-là...
Mais il a donné un cadeau.
Voilà.